C'est 23.
L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
Bon, voyons maintenant ce qu'on retrouve dans les différents quotidiens. Évidemment, ce qui retient beaucoup l'attention, c'est qu'est-ce qu'on fait à Pâques avec la pandémie? Est-ce que les rassemblements sont recommandés ou quelles sont les consignes? Eh bien, hier, la santé publique a rendu son verdict. Prudence à Pâques, c'est ce qu'on titre dans le journal La Presse ce matin. À chacun de gérer son risque, c'est ce qu'a dit le directeur national de la santé publique par intérim, le docteur Luc Boileau. Mais pas de nouvelles restrictions, pas de limitations, entre autres, de rassemblements familiaux pour le congé de Pâques, comme ça avait été le cas à Noël, entre autres. Souvenez-vous qu'on avait ramené des limites de rassemblements. Par contre, on arrive avec... appelons ça les 5 commandements de Pâques. S'isoler pendant une dizaine de jours dans le cas d'un diagnostic positif. Alors, il faut s'isoler pendant 5 jours à la maison si jamais on a la COVID. Et 5 jours par la suite, donc de plus en semi-isolement, si on veut. En ce sens que, bon, on essaie de limiter les contacts et tout ça. Là, on porte le masque, bien sûr, etc. Bien évaluer ses contacts également, savoir avec qui on va se rassembler à Pâques. Utiliser tout l'arsenal à notre disposition, le lavage des mains, le port du masque, les rassemblements, la distanciation. Profiter bien sûr de la vaccination si jamais vous n'êtes pas pleinement vacciné et éviter les événements super propagateurs comme par exemple les spectacles et tout ça là, si jamais on est dans une clientèle à risque. On aura l'occasion de parler au docteur Boileau un petit peu plus tard dans cette émission qui va donc faire le point là, sur ce qui se passe avec la pandémie. Et pendant ce temps, est-ce que c'est le temps de lever le port du masque? C'est la grande question qui se pose parce que, bon, vous savez qu'on a décidé de prolonger. Normalement, on devait lever le port du masque au début du mois. Finalement, on a dit non, ça va aller à la mi-avril. Puis là, ben, on a repoussé ça à la fin du mois d'avril. Et ben, il y a un autre joueur qui s'invite, n'est-ce pas, dans la pandémie. Ben, c'est la grippe saisonnière, l'influenza, parce que, bien sûr, les autres maladies n'ont pas pris congé parce qu'il y a une pandémie. Là. Et la directrice régionale de la santé publique, la docteure Mylène Drouin, croit qu'il ne faut pas lever immédiatement l'obligation de porter le masque dans les lieux publics tant que le Québec n'est pas bien confortablement installé dans la pente descendante de la courbe. C'est ce qu'on peut lire ce matin sous la plume de Marie-Ève Cousineau dans le journal Le Devoir. Ce que dit la docteure Drouin, autrement dit, c'est comme il va y avoir un autre facteur de risque important de propagation de maladies, avec la grippe, on est peut-être mieux d'attendre encore avant de lever l'obligation du port du masque. On a été vacciné il y a quand même un certain temps, rappelle le docteur Drouin, c'était au mois de novembre pour les plus vulnérables. Le directeur de la santé publique, docteur Boileau, avait déjà annoncé il y a une semaine que le port du masque allait être exigé dans les lieux intérieurs jusqu'à la fin du mois d'avril. Il faudrait peut-être songer à prolonger cette mesure. On lui posera la question un peu plus tard ce matin. Écoutez, il y a des ministres, parfois, qui se mettent les pieds dans les plats pendant une conférence de presse. On leur pose des questions, puis là, ils échappent une mauvaise réponse, puis ils se mettent les pieds dans les plats. Dans le cas de Pierre Dufour, ministre des Forêts, il n'a pas besoin des journalistes. Il est capable de faire ça tout seul, se mettre les pieds dans les plats. Et la fameuse question du caribou forestier qui hante le gouvernement Legault depuis des semaines, voire des mois et même des années, a rattrapé le ministre Dufour hier. Je vous mets en contexte. Bon, vous savez qu'Ottawa, le ministre Stephen Guilbeault a dit, ben, si vous vous occupez pas de la préservation du caribou forestier, ben, moi, je vais le faire, puis je vais vous imposer des restrictions par voie de décret au Conseil des ministres à Ottawa, puis on va vous obliger à protéger les animaux. Là, il y a une espèce de jeu là qui se joue avec Pierre Dufour, qui est en train de préparer sa réplique à la lettre qui avait été envoyée par Stephen Guilbeault. Hier, il est, Monsieur Dufour, en mêlée de presse, juste avant la période des questions. Et puis, les journalistes demandent à Monsieur Dufour, on en est rendu avec la fameuse lettre. Et lui va de l'avant en disant que, bon, il va envoyer une missive en disant tout ce qu'il a fait là pour protéger le caribou forestier, dont il reste 5250 individus au Québec seulement. Et là, il se livre à une attaque contre la communauté Innu. Écoutons.
Donc, ce qu'on a fait, par exemple, de notre côté, avec les petites hardes isolées, on a décidé de faire des enclos pour protéger ces bêtes-là. Se donner le temps de voir quelles seront les actions qu'on va faire. Et de l'autre côté, si tu as une communauté qui s'en va pour sous le prétexte de sa bienfaisance d'aller tuer des caribous dans un cheptel qui est menacé et vulnérable, ben, je pense que eux autres non plus n'aident pas la situation.
Alors, il fait référence à un événement qui est survenu au cours de l'hiver. Il y a des inuits de la côte nord, du secteur de Natashquan, qui ont abattu 50 caribous forestiers sur un cheptel de 500 dans ce secteur-là. Ils ont des droits, ils ont le droit de le faire parce que c'est pour leur survivance, en fait, leurs activités de chasse traditionnelles. Et là, M. Dufour s'est mis à dos, bien sûr, la communauté autochtone. Il faut dire que le gouvernement Legault a bien de la misère en ce moment dans ses relations avec les communautés autochtones. Alors, évidemment, cette sortie-là du ministre Dufour hier a irrité non seulement toute la communauté, a mis le gouvernement de François Legault un peu dans l'embarras. Et il y a même la directrice des affaires parlementaires de Stephen Guilbeault, Kate Legault-Meek, qui a envoyé sur Twitter un commentaire où en disant que c'était assez hypocrite de voir la CAQ qui pointe du doigt au lieu de prendre ses responsabilités. Le gazouille a été effacé par la suite parce que, on a jugé qu'il était peut-être un petit peu trop, politiquement, c'était peut-être en termes de relations avec le fédéral, c'est pas la meilleure affaire, mais quand même, Pierre Dufour qui n'arrête pas de se mettre les pieds dans les plats avec cette fameuse question du caribou forestier.
L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
On va se diriger immédiatement en Ukraine, joindre Tetiana Ogarkova, qui est journaliste responsable du département international de l'Ukraine Crisis Media Center. On lui parle tous les matins. Bonjour Tetiana.
Bonjour.
Alors, vous êtes à quel endroit ce matin? Je sais que vous vous êtes déplacée là au cours des dernières heures, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. 4 derniers jours, j'étais à Kyiv, à la capitale, mais depuis hier, on est rentré à Kamianetsk Podilsky, qui se trouve à 450 kilomètres à l'ouest du pays, mais on ne va pas tarder à revenir d'une manière définitive à la capitale.
Bon, pourquoi vous êtes déplacée au juste? Est-ce que c'est parce qu'il y avait davantage de risques au cours des dernières heures?
Non, pas du tout. On était avec une visite, si vous voulez, humanitaire. On a apporté beaucoup. Notre camionnette était pleine à craquer avec l'aide humanitaire pour les villages dévastés autour de Kyiv. On s'en est profité pour vérifier notre appartement à Brovary, donc c'est à 10 kilomètres de Kyiv. On s'est rassuré que tout allait relativement bien et que effectivement la ville revit. Donc on est prêt à retourner d'une manière définitive avec nos enfants dans les jours qui suivent.
Donc vous dites que la ville revit.
Oui, tout à fait. On voit aujourd'hui que la capitale, Kyiv, c'est donc la vie revient. Petit à petit, il y a des commerces qui s'ouvrent, il y a des gens qui reviennent, il y a des parkings qui sont déjà pleins. Ouais. Il y a la vie revient, la vie normale. Après le départ des troupes russes aux alentours de Kyiv, on voit que les gens qui peuvent revenir, ils le font. Malheureusement, ce n'est pas le sort de ceux qui habitaient au nord de la ville. Mm-hmm. Je veux dire, Boucha, Irpin, Vorzel. Donc là, c'est un enfer. C'est vraiment des images apocalyptiques. Et surtout, le plus grand problème, c'est la destruction et les mines qui sont partout. Beaucoup de nos amis, malheureusement, ne pourront pas y revenir pendant des semaines ou même des mois, puisque ça prend énormément de temps pour déminer. Oui. Mais ceux qui peuvent revenir, il faut les gens reviennent pour libérer la place pour ceux qui sont en train de s'évacuer de l'Est en ce moment.
Ouais. Bon, parlez-moi un peu de ce qu'on entend là au cours des dernières heures, un navire de guerre russe qui aurait été ou qui a été même presque détruit là par une attaque de l'armée ukrainienne, n'est-ce pas?
Oui, c'est une histoire tout à fait intéressante parce qu'il s'agit bien d'un navire militaire russe qui s'appelle Moscou. c'est le plus grand navire de leur flotte. C'est le navire qui a approché pendant cette guerre, après le 22 février, qui était le premier à approcher la côte ukrainienne. Il a lancé cet appel aux gardes frontières de Presqu'île Niménie en disant que moi, navire militaire russe, donc je vous donne l'ordre de déposer les armes. Ensuite, les gardes frontières ukrainiens ont répondu par la phrase qui est devenue maintenant folklorique pour tous les Ukrainiens. Il dit « navire russe militaire va te faire... » Donc voilà. Donc, et maintenant, on peut lire ce folklore partout dans le pays, dans tous les panneaux. Si vous voyagez dans le pays, partout, on voit cette phrase qui est devenue fameuse. Donc, c'était une réponse d'un petit garde frontière qui répond à ce grand navire russe. Aujourd'hui, ce grand navire est détruit justement par deux missiles. Des fabrications, d'après ce qu'on nous dit, ukrainiennes. Il s'appelle Neptune. C'est une, voilà, Neptune. Donc, ça s'est passé hier. Ensuite, il y avait le feu. Donc le navire était sérieusement endommagé. Ensuite, selon l'information qui reste encore à vérifier, le navire est à noyer, mais ça reste à confirmer. Donc l'état-major ukrainien ne dit pas que ça c'était le fruit de l'effort ukrainien, de l'armée ukrainienne, tandis qu'à Moscou, on entend que c'était un accident et donc ils ont reconnu qu'il y avait le feu hier, mais ils disent qu'ils allaient vérifier ce que se passait exactement.
Bon. Parlez-moi de l'évolution militaire, notamment à l'est et au sud du pays. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les combats sont toujours intenses à cet endroit?
La situation reste extrêmement tendue, tout aussi bien à l'est et au sud. Il y a les efforts considérables de l'armée russe d'accumuler les troupes, mais aussi, durant les dernières heures, on a reçu l'information, ils accumulent les forces aériennes, notamment pour bombarder à l'est. Donc, ça, il s'agit de Kharkiv, donc territoire de la région de Kharkiv, Donbass, pareil, Kherson, Mariupol. Aujourd'hui, les civils ne peuvent pas du tout quitter la ville parce que la ville est bloquée.
Ouais.
Donc, Mélitopol, donc toute la côte sud et est. Donc, il y a un effort considérable des Russes de ramasser des troupes pour continuer, pour faire cette grande attaque qui doit venir. Mais ça fait déjà un petit moment qu'on attend cette grande attaque. Donc, il doit venir dans les jours ou semaines qui viennent.
Bon, et là, ben, pendant ce temps, il y a toujours la population qui tente de fuir, notamment Kherson, là, pour essayer justement de fuir les combats, n'est-ce pas? Il y a énormément de mouvements de la population, hein?
Oui, oui. Kherson, c'est une ville. Il faut dire que Kherson, c'est la seule grande ville ukrainienne qui avait tombé. Qui était occupé, on va dire, je parle pas de Mariupol, parce que Mariupol est toujours défendu, même s'il y a presque plus de villes, en fait. Mais
ouais.
Kherson, c'est une ville de presque un demi-million d'habitants qui était occupée dans les premiers jours de la guerre. Donc, les troupes russes sont à l'intérieur. Il y avait beaucoup de manifestations pro-ukrainiennes durant tout ce temps-là, avec un courage incomparable. Donc, aujourd'hui, on reçoit l'information que beaucoup de civils partent, quittent la ville à peu près 1000 voitures privées quittent la ville tous les jours. Ça peut être signe de la crainte que la ville reste occupée, ou ça peut être tout aussi bien la crainte qu'il y aura des combats,
ouais.
Puisque l'armée ukrainienne fait tout ce qui est possible pour approcher la ville. Quand il y a des combats, il faut s'évacuer. Donc, de toute manière, on constate que les civils ukrainiens essaient de rejoindre, justement, l'Ukraine. Et donc, voilà, donc l'information qui provient de Mariupol les renforce sans doute dans ces décisions, parce qu'à Mariupol, les gens sont évacués de force vers la Russie. Ça, c'est une information malheureusement confirmée.
Ouais. Et il y a toujours cette date symbolique pour les troupes de Vladimir Poutine, le 9 mai. Et il y a une confirmation, le plan, c'est véritablement de prendre le Donbass, mais coûte que coûte, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Notre service de sécurité avait publié interception d'un dialogue téléphonique entre deux militaires russes, un se trouvant à l'est et l'autre se trouvant à l'intérieur de la Russie. On ne sait pas où exactement. Donc,
ouais.
Ils ont confirmé donc l'ordre était de prendre autant que c'est possible avant le 9 mai. Et ensuite, il y avait cette phrase qui dit « Donc, si vous n'arrivez pas, détruisez tout. » Donc, voilà. Donc, on peut conclure d'ici que, sans doute, des atrocités sont encore à attendre, malheureusement, mais c'est un plan russe. Espérons, on est sûr, en fait, que l'armée ukrainienne a leur plan à eux.
Tétiana, merci beaucoup encore une fois de nous avoir parlé ce matin. Restez en sécurité. On vous reparle bien sûr demain. Merci, au revoir.
Merci.
Au revoir. Tétiana Ogarkova, qui est journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center.
L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
Eh bien, la grippe aviaire est officiellement entrée au Québec, frappe durement deux élevages, en fait, dont un principalement là, de façon plus importante. On parle d'un élevage très connu, Canard du lac Brome, à Saint-Claude, en Estrie, là-bas. Ce sont peut-être jusqu'à 100 000 canards qui vont devoir être mis à mort s'ils ne décèdent pas d'eux-mêmes de cette fameuse maladie. Alors, qu'est-ce que c'est la grippe aviaire? Quels sont les risques qu'on peut avoir pour nous? On en parle avec Marie-Claude Bibeau, qui est ministre fédérale de l'Agriculture, députée du comté de Compton-Stanstead. Bonjour, Mme Bibeau.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est la grippe aviaire, au juste?
Ben, c'est une grippe chez les oiseaux, ni plus ni moins. Mais pour les oiseaux, c'est une maladie qui est mortelle. Par contre, ça ne présente pas de risque pour les consommateurs. Donc, il n'y a pas d'inquiétude avec la volaille là, qu'on va trouver à l'épicerie. Il n'y a vraiment aucune inquiétude. Pour ceux qui travaillent auprès des oiseaux ou qui ouais. ont des oiseaux dans leur cour, là, il faut faire plus attention. Ça peut se transmettre à l'homme, mais ça va passer comme une conjonctivite ou quelque chose d'assez simple. Mais néanmoins, là, il y a des mesures de précaution à prendre pour éviter que, en ce moment, là, ça vient vraisemblablement des oiseaux migrateurs. Donc, il y a des mesures de précaution à prendre pour éviter tout contact entre les oiseaux migrateurs et la volaille, soit la volaille commerciale ou même volaille à la maison. Là.
OK, parce que là, on est en période de migration des oiseaux, par exemple les oies, etc. Donc, ça pourrait venir de là. Donc, ils ont infecté comment des animaux qui se retrouvent dans des élevages comme Lac Brome, le lien se fait comment?
Le lien se fait, ben si on change pas de bottes quand on rentre à l'intérieur d'un poulailler, par exemple, et que juste avant, ben on a marché dans des fientes d'un animal mm-hmm. infecté. Donc c'est vraiment important. Et les grands producteurs commerciaux connaissent ces mesures-là, mais les petits devraient aussi être plus prudents. Donc on change les bottes, on met un survêtement, on se lave les mains. À chaque fois qu'on rentre et qu'on sort de l'élevage, là, on se change. Ça, c'est les mesures de biosécurité de base à prendre. Puis c'est pour ça, donc, on voit pas de transmission d'une ferme à l'autre en ce moment. C'est vraiment ponctuel à un endroit et à un autre à travers le pays. Là, on a en Alberta, en Ontario et au Québec maintenant.
OK. Mais on fait quoi avec, par exemple, Canard du lac Brome à Saint-Claude? Eux, ils ont... la grippe est rentrée, la grippe aviaire est rentrée dans leur élevage, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abat l'ensemble de la production?
Donc, dès qu'ils ont des soupçons, qu'ils ont des animaux malades, ils vont appeler l'Agence canadienne d'inspection des aliments, puis ils vont se mettre en quarantaine. Donc, il va y avoir des analyses qui vont être faites pour voir est-ce que vraiment l'oiseau a la grippe aviaire. Si oui, là, il y a tout un processus qui est enclenché par l'agence, dont la quarantaine. Et puis là, ben, c'est eux qui vont établir est-ce qu'on doit euthanasier tous les oiseaux de ce poulailler. C'est probablement, je prends Canard du lac Brome mm-hmm. parce qu'ils vont essayer d'identifier clairement, les oiseaux ne sont pas nécessairement tous dans un même poulailler. Donc, c'est vraiment avec l'agence qu'ils vont faire les vérifications selon les normes de biosécurité qui sont appliquées aussi sur le site. Et ben, en fonction là, de cette décision qui va être faite par nos inspecteurs, nos vétérinaires, ben là, ils vont voir est-ce qu'ils mettent. Ils vont probablement demander d'euthanasier ce qui est dans le même bâtiment, ouais. mettre en quarantaine l'ensemble de la propriété, voire même peut-être quelques voisins par précaution, mais sans nécessairement demander l'euthanasie. Là.
Bon, ça doit être je comprends là, que il faut préserver l'ensemble des élevages, puis tout ça, puis il y a une question de sécurité, de salubrité, une question sanitaire là-dedans, je comprends ça, mais il y a aussi un aspect économique à ça. Là. Quand une entreprise comme Canard du lac Brome est obligée d'abattre 100 000 bêtes, il doit y avoir un impact économique. Est-ce qu'il y a des aides à ces entreprises-là pour qu'ils puissent passer à travers?
Oui, alors pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui va éventuellement ordonner l'euthanasie d'un certain nombre d'oiseaux, ces oiseaux-là vont être compensés à la juste valeur marchande de l'oiseau. Et ensuite de ça, si il y avait des conséquences plus importantes. Mm-hmm. Mais bon, dans le cas de la volaille, ils peuvent reprendre les opérations dépendant des installations un mois ou deux mois plus tard. C'est un roulement qui va assez vite. Donc, s'ils vont euthanasier tous les oiseaux, ils vont faire un grand, grand nettoyage, désinfection des installations et ils peuvent reprendre assez rapidement les opérations. Mais advenant qu'une ferme là, subisse des impacts économiques plus significatif, ben on a des programmes de gestion de risque au ministère, ben en fait dans les deux ministères là, c'est fédéral et provincial, on partage les coûts à 60-40 pour ces programmes là. Donc il y a des genres de filets de sécurité qui sont disponibles pour les producteurs agricoles.
Bon, il y a de plus en plus de gens qui ont des petits poulaillers là à la maison là, derrière la maison, 3-4 poules pis, etc. là. Est-ce que ça, ils sont à risque aussi? Est-ce qu'il y a des risques pour ces petits élevages là?
Oui, aussi, s'il y a des oiseaux sauvages dans la cour, ben c'est pas idéal d'avoir des mangeoires en ce temps-ci pour les attirer. Il faut vraiment éviter tout contact de nos poules avec les oiseaux migrateurs particulièrement, là, mais avec les oiseaux sauvages en général.
Ouais.
Puis c'est ça, toutes les mesures de précaution peuvent s'appliquer. Il faut faire plus attention, éviter d'utiliser les mêmes chaussures là, quand mm-hmm. on est avec les poules. Puis, si c'est possible, on les garde en dedans. Même les producteurs bio qui habituellement laissent les poules à l'extérieur, on leur recommande de les mettre à l'intérieur pour le moment, pour la période qui est à risque. Et puis, ça n'aura pas d'impact sur leur certification parce que c'est à deux mots, on choisit le maître, là, donc c'est préférable de protéger et de les garder à l'intérieur.
Bon, vous dites que ça vient probablement des oiseaux migrateurs qui ont été infectés. On sait pas où, là. On s'imagine que ça doit être un peu le même phénomène qu'on peut avoir chez les humains avec la grippe, l'influenza, etc. Mais est-ce qu'il y a un risque aussi pour la population des oiseaux sauvages, des oiseaux qu'on retrouve dans nos forêts, par exemple, et dans la nature? Est-ce que ces oiseaux-là aussi sont à risque?
Oui, absolument. Donc, c'est une grippe qui s'attaque à la volaille au sens large. Donc, je ne suis pas vétérinaire ou je ne peux pas vous
non,
en
non,
dire
non, je comprends.
Plus, mais c'est une grippe qui s'adresse à la volaille. Vraisemblablement, ça vient des oiseaux migrateurs. Donc,
il y a un risque, en fait, pour la faune en général, oui. Ça part au bout de combien de temps, généralement, cette grippe-là? Parce que j'imagine que ça ne doit pas rester tout le temps. Est-ce que c'est saisonnier? Est-ce que, généralement, on réussit à bien contrôler ça? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on est touché par ça.
Non, effectivement, mais ça se contrôle. Vous voyez, on a eu, il y a un mois environ, un mois ou plutôt deux mois, à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse. Et là, il n'y en a plus dans ces deux provinces-là. Donc, on a été capable de circonscrire le problème, d'euthanasier les animaux qui étaient à haut risque, mm-hmm. De désinfecter toutes les installations et de reprendre la production. Puis, on n'a pas eu d'autres cas depuis. Là.
Bon. Vous pensez que l'impact économique de ça va être de combien? Ça va coûter combien pour se débarrasser de cette maladie-là?
Là, je suis pas capable de répondre à cette question-là. Ça va dépendre combien de fermes vont être infectées au courant de la saison. Puis encore une fois, il y a d'un côté des compensations qui peuvent être offertes par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, des programmes d'aide si vraiment ça va plus loin que ça. Et puis bon, le poulet, le dindon, c'est sous gestion de l'offre. Donc les prix sont basés sur les coûts de production.
Ouais.
Alors ce sera pas que, en tout cas, je m'attends pas à quelque chose de significatif, je dirais.
OK. Madame Bibeault, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au revoir. Marie-Claude Bibeault est ministre fédérale de l'Agriculture, députée de Compton-Stanstead. Alors, il y a deux élevages au Québec qui ont été affectés par la grippe aviaire, notamment celui du lac Brome, du canard du lac Brome à Saint-Claude en Estrie. Là-bas, c'est 100 000 bêtes qui vont devoir être abattues. Évidemment, lac Brome, il y a beaucoup de gens qui connaissent aussi l'élevage de Knowlton, qui a été mis en quarantaine. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'abattage là-bas, mais l'élevage est mis en quarantaine pour justement s'assurer que les oiseaux ne soient pas infectés. L'autre lieu touché, c'est un petit élevage, une basse-cour qui compte une vingtaine d'oies, des canards, des poules pondeuses. C'est dans le Haut-Saint-François, selon l'Agence canadienne de l'inspection des aliments. Alors, on ne veut pas donner davantage de détails sur ce lieu-là, mais évidemment, on comprend que c'est un élevage qui est de moindre ampleur que l'élevage du lac Brome.
L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.
Malgré une situation qui est préoccupante au Québec face à la pandémie de COVID-19, la santé publique, hier, a affirmé qu'il n'y a pas l'intention, en fait, de restreindre les rassemblements pour le long congé de Pâques qui commence demain, bien que les Québécois soient invités à plus de prudence. Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, est avec nous. Bonjour, M. Boileau.
Bonjour, M. Lacroix.
Alors, vous dites que ça demeure inquiétant. Faites-nous donc l'espèce de pronostic là, que vous faites généralement à peu près à toutes les semaines sur la pandémie. On sent qu'on est encore en montée en ce moment, n'est-ce pas?
Oui, on est toujours en montée, vous le dites bien. La montée monte moins vite dans certaines régions, par exemple le Bas-Saint-Laurent ou la Gaspésie, mais elle continue à monter. Hein? On n'est pas en pente descendante. Ça continue à monter. On a donc des petits signes qu'on pourrait commencer à atteindre un plateau et éventuellement baisser, mais on n'en est pas là. Et c'est donc beaucoup de cas. Vous avez entendu hier qu'il y a des estimés qui disent d'entre 40 et 60 000 cas par jour.
Ouais.
Donc, c'est beaucoup, beaucoup. Et donc, à la veille d'un congé pascal, où est-ce que beaucoup de gens en profitent, se réunissent, ben il faut pouvoir estimer comme il faut son risque parce que c'est pas le temps là de commencer à vivre une maladie. Les urgences sont débordées, c'est difficile en ce moment. Alors, de grâce, restons prudents pour soi-même, pour les autres. Et quand on l'a là ou des symptômes, mon Dieu, c'est 10 jours là, qu'on est contagieux. Là. Si on avait toute cette attitude là et cette conviction là, on descendrait pas mal plus vite.
Bon, qu'est-ce qui fait que les hôpitaux, il y a 2060 personnes qui sont hospitalisées en ce moment, mais quand même, on sent pas qu'il y a la même pression qu'on avait lors de la précédente vague là, qui est autour des fêtes.
Oui, en fait, on en a plus que ça aujourd'hui là, parce que ce sont les données d'hier. Donc
ouais.
On continue à augmenter.
On est à combien là, en ce moment là?
À peu près 2150. Là.
Ah oui, quand
c'est
même.
Autour
hein?
de ça, puis on a autour de pratiquement 13 000 employés qui sont absents en ce moment. Donc, c'est beaucoup. Et ça s'approche progressivement de là où nous étions au pic du mois de janvier. Toutefois, il nous reste encore de l'espace là, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont parmi ceux-là hospitalisés, pas pour la COVID, dans le sens ils viennent pas en disant j'ai tous ces symptômes-là, je suis pas bien, c'est qu'on leur découvre ça, parce que c'est tellement fréquent qu'évidemment, je ferais des tests un peu partout, là, dans n'importe quelle salle, j'en trouverais, mais à l'urgence, on en trouve, puis dans nos lits d'hôpitaux aussi. Par contre, pour chaque cas qu'il y a là, on est obligé de faire des protections particulières, vous comprenez bien, on veut pas contaminer les autres patients qui sont à risque aussi d'autres choses. Alors, ça reste difficile. On n'est pas où est-ce que nous étions en janvier et on veut pas se rendre là. Et en janvier, on avait des outils populationnels. On avait mis plein de... En fait, c'était pas moi. Là. Moi, j'étais pas le directeur de la santé publique, mais mon prédécesseur avait suggéré de mettre beaucoup de mesures. Là, vous les connaissez. Là, on ne les met pas parce qu'on croit que cette vaccine, on est capable de l'absorber avec beaucoup moins de cas qui vont se diriger vers les hôpitaux par personne infectée. Autrement dit, on a beaucoup de monde qui sont déjà infectés et d'autres qui ont profité de la vaccination, et tant mieux, mais ça reste une vague énorme en termes de nombre de cas. Là c'est vraiment beaucoup.
Ouais.
Alors, faut qu'on soit tous prudents, mais prudents pour les autres, prudents pour pas permettre à d'autres de vivre ce qu'on a, nous autres, vécu. On pense que c'est pas si grave que ça. Alors, ben, ça fait 5-6 jours, je me sens bien, j'ai plus de symptômes, je vois pas pourquoi je m'empêcherais. Puis on va voir les amis, la famille, tout ça. Et c'est là où le feu reprend.
Ouais. Mais je vous entendais hier, vous avez fait les espèces de 5 commandements là, qu'on peut avoir.
Il y en a un autre qui en avait fait une dizaine, là, mais
oui.
Je pourrais vous en faire 10 si vous voulez.
Oui, oui, c'est
et
ça.
Cinq,
mais...
c'est déjà pas pire.
Exactement. Mais est-ce qu'on est capable d'évaluer l'impact des asymptomatiques? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup dans cette vague-là de gens. Parce que, tu sais, il y a des gens là qui sont proches de moi, que je connais, dont les membres de la famille l'ont à peu près tous attrapé la COVID, puis eux autres l'ont pas eu. Ils côtoient ces gens-là, sont dans la même maison, etc., et ils l'attrapent pas. En fait, ils ont pas de symptômes. Est-ce que c'est parce qu'ils sont asymptomatiques? Est-ce qu'on est capable de l'évaluer?
Oui, en fait, ce que nous savons, c'est que par exemple, le vaccin, là, bien sûr, quand on a 2 ou encore mieux 3 doses, pour un bon nombre, si on parle de 50 à 60 ou 80 % des gens, vont éviter l'infection. Le plus important pour nous, le vaccin en ce moment, c'est qu'il protège contre les infections graves. Mais ils vont, pour un bon nombre, éviter aussi l'infection. C'est juste qu'ils ne l'évitent pas à 100%. Le vaccin a cette propriété de nous éviter d'aller à l'hôpital ou aux soins intensifs ou d'en mourir, mais il ne prévient pas entièrement l'infection. Donc, vous avez raison, il y a beaucoup de personnes qui, comme vous le soulignez, côtoient d'autres membres de la famille, puis qui se surprennent de ne pas avoir eu de symptômes, puis ils passent des tests, puis ils disent, ben je l'ai pas, mais c'est parce qu'ils ont été vaccinés. Et, ou encore qu'ils ont fait une infection à Omicron récemment, qui les a protégés pour bon nombre d'entre eux, mais encore là, pas tous. Alors, oui, c'est une situation qui rend la progression de tout ça un peu plus complexe, mais c'est pas eux autres le plus gros problème, parce que ceux qui sont asymptomatiques, normalement, ils ont une charge virale beaucoup plus réduite.
Oui.
Ils sont pas des gros facteurs de contagion. Les vrais contagieux sont ceux qui ont eu des symptômes, puis ça va mieux, mais ils continuent à être contagieux, puis là, ils protègent pas les autres. C'est le plus gros problème, il est là.
Je voyais, parce que là, bon, évidemment, il y a la fameuse consigne du port du masque que vous prolongez jusqu'à la fin du mois. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est votre plan. Mais je voyais la docteure Drouin de Montréal dire, là, il y a un autre facteur qui s'invite dans la pandémie, puis c'est la grippe saisonnière, l'influenza. Et elle dit qu'on devrait continuer à porter le masque au-delà de cette date-là, justement parce qu'il y a un autre facteur de risque qui est la grippe qui pourrait venir compliquer la situation des hôpitaux.
Oui, on n'a jamais dans l'histoire du Québec imposé le port du masque pour la grippe. On l'a suggéré à certains, mais souvenez-vous de toutes ces années passées, là, je pense que vous avez plus que 2 ans. Alors, vous avez jamais vu ça, là, du monde se promener avec des masques à cause de la grippe. C'était pas une habitude que nous avions. On va penser que, bien sûr, c'est une belle recommandation de suggérer aux gens de se protéger contre la grippe aussi et contre le coronavirus. Mais en ce moment, puis en passant, Dr Drouin, on se parle souvent. Là, on a, c'est sûr que tous, on travaille ensemble pour évaluer l'opportunité de maintenir ou non les règles du masque au-delà du 30 avril. On est à considérer ça. On va faire nos recommandations au gouvernement dans les prochains jours et il pourra disposer de ça. Et c'est sûr que la période actuelle est pas ne reflète pas l'envie que nous avons tous de voir une vague s'estomper. Elle continue à monter, mais nous prévoyons qu'elle pourrait commencer à tourner là, dans 8 à 12 jours. Espérons, ça ne veut pas dire que nous en sommes convaincus.
OK, j'essaie de décoder ce que vous venez de dire là. Donc, vous êtes en train d'évaluer la possibilité de prolonger le port du masque, pourquoi un autre 15 jours?
Oui, on ne ferait pas ça pour un autre mois. Là, s'il y a lieu, on va regarder avec ce qu'on a devant nous et les projections que nous avons. Et l'utilité du masque, on la connaît.
Ouais.
Si nous n'avions pas de masque en ce moment, ce serait sans doute pire. Vous regardez ce que les autres provinces font. Elles essaient de ramener le masque. C'est pas facile. Nous, on a l'avantage de l'avoir en ce moment. Les gens sont compliants là-dessus et je les en remercie beaucoup. Mais il est possible que nous recommandions au gouvernement d'allonger d'un autre 2 semaines. Ce n'est pas fait. Nous allons le faire au cours des prochaines journées, sans doute la semaine prochaine, nous présenterons tout cela au gouvernement ou au plus tard le lundi suivant et on prendra la décision à ce moment-là, c'est-à-dire le gouvernement prendra la décision, c'est lui qui décide, nous on recommande.
Bon, je vais terminer en parlant du Novavax, Dr Boileau.
Oui.
C'est un autre outil dans la vaccination qui s'offre aux gens qui craignent peut-être les autres types de vaccins, là, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, c'est un vaccin très efficace qui a les caractéristiques d'être construit de la même manière que les autres vaccins qu'on a généralement connus dans nos vies.
Oui.
Et qui a pris beaucoup de temps à arriver puis à être testé, tout ça, il est très efficace. Il est disponible. Donc, il y a beaucoup de gens, vous savez, qui, je suis pas toujours d'accord avec ça, évidemment, mais qui craignent les ARN messagers à cause d'une technologie très, très moderne qui a démontré largement son efficacité et son innocuité. Alors, ceux qui veulent en profiter, c'est disponible dès maintenant. C'est une bonne nouvelle. Et pour ceux aussi qui ne sont pas vaccinés, qui commencent des symptômes, appelez à votre pharmacie parce que le pharmacien pourrait vous donner un médicament qui va éviter d'aller vers l'hôpital, le Paxlovid, ce qui est une autre très bonne nouvelle. Et au Québec, il est installé et distribué d'une façon exemplaire par rapport au reste du Canada ou même du monde. Fait qu'on peut profiter de ça. C'est pas c'est pas pour tout le monde, là, mais c'est ceux qui ont 60 ans et plus qui sont pas vaccinés ou ceux qui ont moins de 60 ans qui sont pas vaccinés, qui ont des maladies chroniques. C'est le temps de pouvoir en profiter de cela pour éviter qu'on aille à l'hôpital. Puis pour tout le monde, ben, c'est vraiment de respecter le 10 jours, puis de ne pas faire exprès là, d'aller voir nos grands-parents, puis de... C'est eux qui sont le plus à risque, là, les personnes de plus de 60 ans. C'est vraiment ces personnes-là. C'est une vague qui atteint plus que jamais les personnes âgées et celles qui sont fragiles, les immunosupprimées. C'est le temps de les protéger et on est tous responsables de ça. Et elles le sont aussi.
Docteur Boileau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Joyeuse Pâques, malgré tout.
Oui, merci, M. Lacroix.
Au revoir.
Vous aussi. Merci.
Le docteur Luc Boileau est directeur national de santé publique par intérim.
L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
Bon, l'autre information également qui est assez importante sur le plan stratégique dans ce conflit, c'est que on apprenait au cours de la journée d'hier et avant-hier, en fait, que la Finlande et la Suède envisagent maintenant de joindre les rangs de l'OTAN. On sait que la Finlande a une frontière qui fait, quoi, c'est 1300 kilomètres, je pense, avec la Russie. La Suède aussi a une frontière qui est plus maritime, mais quand même a une frontière commune aussi avec la Russie. Et là, ben, on aimerait joindre les rangs de l'OTAN pour profiter du fameux article 5 de la charte ou d'espèce de charte qui est commune à l'ensemble des pays qui font partie de l'OTAN. On en parle avec Frédéric Méran, qui est directeur scientifique du CIRIUM, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal et spécialiste de l'OTAN. Bonjour, M. Méran.
Bonjour.
Alors, quel est l'impact que pourrait avoir justement le fait que la Finlande puisse joindre l'OTAN? Est-ce que ça risque d'avoir un impact sur l'ensemble de ce conflit-là?
Il faut se rappeler qu'avant d'envahir l'Ukraine, Vladimir Poutine avait dit et avait imposé comme condition que l'OTAN se retire derrière ses frontières d'avant 1989.
Ouais.
Et donc, ça ne s'est pas fait. Il a envahi l'Ukraine. Et aujourd'hui, en fait, on pourrait voir qu'il s'est tiré dans le pied puisque l'OTAN viendrait grossir ses rangs avec la Finlande et avec la Suède. Et donc, ce serait exactement le contraire de ce qu'il souhaiterait. Est-ce que ça va envenimer encore davantage des relations? Probablement. Ça montre que le conflit ukrainien, c'est pas seulement à propos de l'Ukraine, bien que ce soit beaucoup à propos de l'Ukraine, c'est aussi un conflit plus large entre la Russie et le monde occidental ou l'OTAN.
Parce que je voyais le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, là, Dmitri Medvedev, qui lui a brandi la menace nucléaire en disant ben si vous joignez l'OTAN, ben ça pourrait faire en sorte que on va accentuer les moyens de protection du territoire. Et là, il a parlé de l'arme nucléaire. C'est toujours l'espèce de crainte qu'on a que ce conflit dégénère en conflit nucléaire.
Oui, alors c'est sûr que ça paraît toujours un peu surréaliste d'imaginer de telles menaces. Simplement parce qu'un pays démocratique décide de se joindre à une alliance atlantique.
Ouais.
Mais l'invasion de l'Ukraine, c'était aussi un des scénarios qu'on n'imaginait pas possible. Donc, est-ce qu'il prendrait vraiment l'arme nucléaire? Ça reste quand même peu probable. Mais en revanche, est-ce que la Russie serait tentée d'ouvrir un nouveau front? C'est encore peu probable, mais on peut imaginer, par exemple, des attaques cybernétiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont exprimer leur désaccord. Il faut se rappeler que la Finlande est dans une situation qui n'est pas si différente de celle de l'Ukraine, puisque comme l'Ukraine, c'est un pays qui a fait partie de la Russie jusqu'à la Première Guerre mondiale, et comme l'Ukraine, c'est un pays qui partage, vous l'avez mentionné, une longue frontière avec la Russie. Donc, on peut comprendre aussi l'inquiétude en Finlande, surtout en Suède, dans une moindre mesure.
Bon, qu'est-ce que c'est l'article 5 de la Charte de l'OTAN? Parce que la raison pour laquelle la Finlande et la Suède songent à joindre l'OTAN, c'est beaucoup en raison de cet article-là, n'est-ce pas?
En effet, c'est-à-dire que si la Finlande ou la Suède, qui sont actuellement des pays neutres, c'est-à-dire ce sont des pays qui ne font pas partie d'une alliance militaire, s'ils se joignaient à l'OTAN, qui est une alliance militaire, ils seraient automatiquement couverts par cette garantie de sécurité, c'est-à-dire que les autres pays, pas seulement les États-Unis, mais également le Canada, la France, l'Allemagne et les autres, devraient se porter à leur secours si ces pays étaient envahis par la Russie. C'est exactement ce que demandait l'Ukraine avant d'être envahie par la Russie, puisqu'elle estimait que ça lui aurait permis de mieux se défendre.
Alors, donc, c'est une sorte de garantie de protection, en quelque sorte.
Oui, c'est exactement le, c'est le principe de D'Artagnan et des trois mousquetaires. C'est un pour tous et tous pour un. Même si vous êtes un petit pays faible, par exemple la Finlande, et que vous êtes attaqué par un plus grand, par exemple la Russie, comme tous les autres pays membres de l'OTAN vont se porter à votre secours, l'idée c'est que vous ne serez pas seul, mais aussi que ça joue un effet puissamment dissuasif sur un pays comme la Russie qui serait tenté de s'attaquer à vous.
Bon, hier, je voyais que Joe Biden promet maintenant une nouvelle aide militaire, en fait, à l'Ukraine, mais là, en fournissant du matériel lourd. On peut penser, par exemple, à des chars ou, en fait, du matériel beaucoup plus lourd que ce qu'on avait accordé comme aide militaire jusqu'à maintenant. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le conflit également?
Oui, alors c'est le résultat de deux choses. Premièrement, le fait que les Ukrainiens, à la surprise générale, aient réussi à défendre leur pays pendant plus d'un mois maintenant, ce sur quoi personne ne comptait, mais ils ont besoin d'armes. L'armée ukrainienne est déjà épuisée. Il faut imaginer ce que ça représente de se battre tous les jours pendant plus d'un mois. Et donc, les fournitures d'armes sont essentielles pour qu'ils résistent encore. Et c'est aussi le résultat d'un constat, pas d'échec, mais en tout cas, on voit les limites des sanctions économiques. Hein. Les sanctions économiques n'ont pas réussi à ruiner économiquement la Russie jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Et donc, on vient combiner les sanctions économiques avec des fournitures d'armes plus puissantes. Et je pense que c'est un phénomène qui va se poursuivre dans les prochains mois, oui.
Et que les autres pays de l'OTAN vont aussi emboîter le pas de façon plus importante. Le Canada a déjà fourni, d'ailleurs, de l'équipement, évidemment, dans une moindre mesure, compte tenu de nos moyens, là.
Oui. Tant que les Ukrainiens vont être capables de se défendre et vont demander des armes, je m'attends à ce que les pays de l'OTAN acceptent de les leur fournir. La ligne rouge qui va demeurer, c'est que les pays de l'OTAN ne veulent pas entrer en confrontation directe eux-mêmes avec la Russie. Mais il faut voir que du point de vue du droit international, c'est légitime de fournir des armes de défense à un pays qui est impliqué dans un conflit avec son voisin. C'est plus compliqué lorsqu'on devient nous-mêmes partie à ce conflit, lorsque l'on devient co-belligérant. Donc, c'est la frontière que les pays de l'OTAN ont tracée. Ils sont prêts à soutenir militairement avec des armes l'armée ukrainienne, mais ils ne veulent pas eux-mêmes être impliqués dans le conflit avec la Russie.
Frédéric Meyrat, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, bonne journée, au revoir.
Au revoir. Il est directeur scientifique du CIRIUM, professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal et spécialiste de l'OTAN.
L'essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
C'est 23.